Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Thierry Burlot. Il est président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Il est également président du Cercle français de l'eau. Il est venu jusqu'à nous. On va parler de l'eau ce matin sur Bretagne 5. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'eau, c'est aujourd'hui un enjeu essentiel. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de pollution, on va en parler de ces problématiques. Mais l'enjeu principal aujourd'hui, c'est comment économiser l'eau, comment respecter la ressource.
Ben oui, je crois qu'on est face à des enjeux considérables avec ce dérèglement climatique qui malheureusement se poursuit et que l'on vit actuellement ici comme ailleurs, en métropole, et peut-être aussi en Bretagne, avec ces périodes de sécheresse qui suivent des périodes d'inondation. On va avoir de la chance en France, c'est que globalement, on aura à peu près la même quantité d'eau qui va tomber dans les années qui vont venir. Mais par contre, tous les prévisionnistes nous disent clairement qu'on aura plus de canicules, plus de sécheresse, et plus d'inondations, ce qui est un peu paradoxal. Mais enfin, tout ça, il va falloir le vivre. Et évidemment, ça perturbe l'alimentation, l'usage de l'eau. Usage de l'eau essentiel à la vie. Je rappelle que sans eau, pas de territoire. Hein. Mm-hmm. Sans eau, pas d'urbanisation. Sans eau, pas de développement économique. Sans eau, pas de santé des populations. Sans eau, pas de biodiversité. Donc l'eau est un élément... un bien commun naturel essentiel à la vie, qu'il faut plus que jamais préserver, bien gérer, économiser pour être à la hauteur des enjeux qui nous sont posés.
Ça pose aussi une question, elle est bassement matérielle, mais le prix de l'eau aujourd'hui, est-ce qu'on va aller dans les années à venir, par exemple avec une augmentation des coûts de l'eau pour le particulier, pour les industries
Je crois... Ce que nous a rappelé ces épisodes de sécheresse, c'est que l'eau, en France, elle n'était pas inépuisable. Mmh. Et qu'on savait qu'elle était parfois dégradée, mais on s'est rendu compte qu'avec la sécheresse, notamment les périodes de tension, que cette eau, il va falloir la ménager, la protéger, la partager et être solidaire. Et on se rend compte que ce bien commun, qui était accessible par tous, c'est plus une évidence. Mmh. Et que donc, plus que jamais, il va falloir que l'on ménage cette ressource, qu'on préserve cette ressource, et on sait bien que tout ça, ça va coûter plus cher. Vous savez, quand vous prenez votre facture d'eau potable, quand vous la comparez à votre facture de téléphonie, ça n'a rien à voir. Mmh. Et pourtant, vous pouvez vous priver de téléphone, mais pas d'eau. Donc je pense qu'en effet, le prix de l'eau va devoir évoluer parce qu'il va falloir que l'on mette de plus en plus d'argent pour assurer sa préservation, assurer son traitement, assurer son épuration et que tout ça va nécessiter des moyens supplémentaires. Et je crois sincèrement que ça passera aussi par une augmentation vraisemblable du prix de l'eau au robinet.
Avec aussi des infrastructures. Aujourd'hui, on sait que dans certaines régions, il y a des infrastructures vieillissantes, il faut les remplacer. On a quelques fuites aussi sur le réseau. Là aussi, on perd de l'eau quelque part. Là aussi, ça va avoir un coût. Et puis, un autre coût, peut-être aussi la solidarité. Là encore, au niveau des infrastructures, comment alimenter une région qui n'a pas d'eau par solidarité depuis une région qui, elle, a un petit peu plus d'eau.
Oui, vous savez, je crois que comprendre l'explication, on peut différencier le petit cycle du grand cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau et l'assainissement. Donc c'est l'eau au robinet et l'assainissement. Et là, c'est vrai, vous avez raison de le dire, on s'est un peu endormi. Mmh. On a pensé que tout était fait, que tout était réalisé, l'eau arrivait au robinet, que ça posait pas de questions. Et on s'est rendu compte qu'à travers cette période de tension, de sécheresse, que cette eau au robinet, c'était plus une évidence. Mmh. Et que nos réseaux, qui datent d'une soixantaine d'années, n'avaient pas été renouvelés, que nos stations d'épuration, on avait pensé qu'on avait tout réglé alors qu'on a encore des problèmes de pollution, que le traitement de l'eau, c'était réglé alors qu'on découvre aujourd'hui les métabolites des pesticides, les polluants éternels. Donc tout ça remet en cause la question de la de la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Et on se rend compte, en effet, qu'autour du petit cycle de l'eau, ben, il va falloir qu'on reprenne des investissements, qu'on réinvestisse pour assurer à tout un chacun une eau de qualité en sécurité au robinet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le grand cycle de l'eau. On s'est rendu compte, à travers ces périodes de sécheresse, qu'on avait des territoires qui étaient plus ou moins fragiles. Et lorsqu'on prend la Bretagne, par exemple, on se rend compte que le secteur de l'est de la Bretagne, à savoir notamment le bassin rennais, est beaucoup plus en fragilité sur la question de l'eau que l'ouest de la péninsule. Puisqu'à l'ouest, dans le Finistère, quand il pleut 1m30, 1m40, 1m50 d'eau par an, quand on est sur le bassin rennais, il pleut 600 mm. Et aujourd'hui, quels sont les territoires qui se développent le plus aujourd'hui en Bretagne ? C'est le bassin rennais. Mmh. Tant en termes de développement économique d'ailleurs, qu'en termes d'urbanisation. Et les besoins en eau sont considérables dans ce bassin. Et c'est là où il y a finalement le moins d'eau sur le grand cycle. Donc ça va nécessiter ce qu'on appelle des solidarités territoriales entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Et la question de l'eau devient une question structurante du schéma régional d'aménagement du territoire. Parce qu'encore une fois, les territoires qui bénéficieront d'une eau en quantité et en qualité seront les territoires qui pourront se développer.
Avec aujourd'hui aussi une autre notion, la notion démographique. On a beau dire que la démographie baisse en France, il y a de plus en plus d'habitants et depuis, on va dire une trentaine d'années, on a vu quand même une évolution démographique dans le pays. Là aussi, il y a une plus grande demande en eau, essentiellement sur les métropoles, mais aussi sur les campagnes.
Ah bah écoutez, le chiffre est assez clair. Aujourd'hui, nous sommes 3 200 000 Bretons. On nous annonce, dans à peu près tous les scénarios INSEE, une Bretagne à 4 millions d'habitants. Mmh. Pourquoi ? Parce que la Bretagne est attractive, mais la Bretagne est attractive aussi à cause du dérèglement climatique. Et on vit d'ailleurs en ce moment les premières migrations climatiques. Mmh. C'est-à-dire que la vie devient, pour certains, invivable dans le sud parce qu'il va faire trop chaud, et que donc la Bretagne devient un Eldorado. Donc la Bretagne à 4 millions d'habitants, c'est assez simple. Aujourd'hui, on est 3,2 millions, on consomme à peu près 300 millions de mètres cubes d'eau par an. Si on fait la règle de 3, il nous manque 50 millions de mètres cubes aujourd'hui pour accueillir une telle population. 50 millions de mètres cubes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la réserve de Guerre-les-Dents, du barrage réservoir de Guerre-les-Dents. Alors la difficulté de la Bretagne est la suivante, c'est que la Bretagne, c'est le massif armoricain. Et le massif armoricain, c'est une roche très dure, peu perméable, qui ne stocke pas l'eau. Ce qui explique que 70% de l'eau utilisée en Bretagne, voire 75%, c'est de l'eau superficielle. C'est de l'eau de nos rivières. Mmh. Et le différentiel, c'est de l'eau souterraine peu présente. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on rentre en période de sécheresse, ou dès que la végétation repart, dès le mois d'avril, mars-avril, les nappes ne sont plus alimentées. Et les rivières ne sont alimentées que par les pluviométries plus ou moins fortes. Donc, dès qu'il ne pleut plus en Bretagne, le niveau d'eau dans les rivières s'effondre. Et donc, historiquement, si on n'avait pas stocké de l'eau en Bretagne depuis des années, à travers des barrages, comme celui du barrage du Gouët à Saint-Brieuc, celui de Carnéuel sur le Blavet, ou celui de l'Arguenon ici sur l'Arguenon, si on n'avait pas stocké de l'eau en Bretagne, on serait déjà soumis à de très graves tensions sur la ressource en eau. Et c'est parce qu'on a stocké de l'eau en Bretagne et donc réalisé des barrages à l'époque qu'on peut aujourd'hui assurer l'alimentation en eau potable des populations. Donc, se dire qu'accueillir 4 millions d'habitants, enfin, accueillir l'équivalent d'un département comme les Côtes d'Armor quand même, hein, si on compare à la population. Ben, si on veut accueillir une telle population, ben, il faut qu'on imagine de trouver de nouvelles ressources en eau.
Avec le stockage et les barrages, on voit nombre de petits barrages depuis quelques années qui ont été démantelés, détruits, parce que trop cher à l'entretien ou vétus ou dangereux même. Il y a un barrage tout près d'ici, sur le Gouessan, qui est en devenir depuis quelques années. L'État ne veut plus l'assumer, personne ne veut l'acheter. Et pourtant, il y a une grande réserve d'eau aujourd'hui. Est-ce que ce serait une mauvaise idée de le détruire ? C'est un barrage hydroélectrique.
Historiquement, c'est un barrage hydroélectrique et sa suppression avait été proposée pour assurer ce qu'on appelle la continuité écologique des cours d'eau. Et c'est vrai que dès qu'on barre un cours d'eau, ben on perturbe la continuité, donc la biodiversité dans le cours d'eau, etc. Mmh. Donc ça, c'est incontestable. Et alors, pour revenir à cette réserve des pontneux...
Oui, c'est les pontneux, hein, pour nos auditeurs lointains, c'est tout près de Saint-Brieuc.
C'était un barrage hydroélectrique de peu de capacité. Hein, mmh. De peu de capacité quand on regarde un peu la question de l'eau potable. Donc, c'est vrai que c'est une réserve d'eau et on peut s'étonner de la supprimer au moment où on se dit qu'on aura peut-être des besoins futurs. Mais je vous rappelle que si je vous dis 4 millions d'habitants en Bretagne, c'est qu'il manque 50 millions de mètres cubes. Et 50 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent du barrage de Guerre-les-Dents.
Voilà, qui est grand barrage.
Le plus gros réservoir d'eau douce de Bretagne. Mmh. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir faire des petits barrages partout pour être à la hauteur des enjeux. Donc, il va falloir faire des économies. C'est évident, donc on va tous faire attention à notre consommation d'eau, et ça passera aussi par un prix de l'eau qui devra évoluer, comme je le disais tout à l'heure, mais ça ne suffira pas. Mmh. Et je vous rappelle que si on n'avait pas fait des barrages réservoirs à l'époque, la Bretagne serait déjà en difficulté. Mmh. Et si on ne crée pas de ressources nouvelles, on ne pourra pas accueillir de populations nouvelles. Si on ne fait pas ces économies, si on ne crée pas des ressources nouvelles, on va être devant des difficultés majeures.
Alors, il y a le stockage de l'eau. Il y a eu cette affaire, si vous me permettez le terme, en mars 2023 de Sainte-Soline, les agriculteurs qui avaient créé des bassines pour stocker l'eau. Alors après, on peut en discuter, on peut discuter du point de vue politique et des choix qui ont été faits. Mais ce sont des réserves d'eau, finalement.
Bien sûr, ce sont des réserves d'eau pour l'agriculture qui, je le rappelle, consomme 50% des usages de l'eau en France, c'est l'agriculteur. C'est-à-dire que sans eau, pas d'agriculture. Donc pour les agriculteurs qui aujourd'hui ont des projets de stockage de l'eau, c'est pour beaucoup d'entre eux la sauvegarde de leur production. Mmh. Tout simplement. Au pied du Massif Central aujourd'hui, on est en train d'imaginer du stockage de l'eau. Parce que les agriculteurs concernés, notamment dans la plaine de Limagne, on leur dit très clairement, si vous n'avez pas la garantie de l'eau au moment des sécheresses, on ne signera pas de contrat avec vous. Donc pour les agriculteurs, le stockage de l'eau ou la garantie de l'usage de l'eau, c'est la garantie de pouvoir continuer à exploiter. Donc moi, d'une manière générale, je pense que c'est une erreur de dire qu'on serait pour ou contre le stockage de l'eau. De toute façon, on ne pourra pas, dans certaines situations, faire autrement que de stocker l'eau. Maintenant, c'est pour quoi faire, pour quel type de production, pour quelle transformation agroécologique, pour quel usage de plantes qui, je l'espère, seront moins consommatrices d'eau demain, avec du stockage, mais du stockage aussi pour garantir l'agriculture, l'économie, l'alimentation en eau potable, pourquoi pas la biodiversité. Enfin, tout ça doit se travailler, non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres.
Une solidarité, finalement.
Et moi, j'en appelle à une solidarité territoriale, une solidarité financière, pour aborder globalement ce sujet. Et encore une fois, c'est trop réducteur de dire je suis pour ou je suis contre. Mmh. Non, non. De toute façon, dans certaines situations, on ne peut pas faire autrement. Je vous laisse imaginer les difficultés que la Bretagne aurait si on n'avait pas construit des barrages à l'époque. Mmh. Et imaginez un instant s'il faut reconstruire des barrages ici. Hein? Donc ça, la question de l'eau pose des questions fondamentales qu'il faut que les territoires osent aborder. Et encore une fois, il faudra dans cette affaire, là où on parle de la gestion quantitative, on ne va pas encore parler des pesticides et des PFAS.
On va y venir.
Il va falloir du courage politique pour aborder ces questions-là. Et juste pour terminer, la question des bassines ne se pose pas en Bretagne, puisque le socle armoricain ne permet pas ces stockages-là, enfin, cette forme de stockage-là. Nous, on est plus sur des retenues collinaires, et je pense notamment à des zones comme la zone légumière du centre-Bretagne, qui, elle, est en tension sur la question de l'eau dès qu'on est en période de tension et de sécheresse. Donc là, il faudra y réfléchir. Mais encore une fois, construisons ce sujet ensemble.
Il faut aussi réguler les usages quotidiens. On voit les gens qui nettoient beaucoup leurs voitures aujourd'hui. On entend d'ailleurs beaucoup de voix s'élever en disant « Oui, mais bon, laver la voiture tous les week-ends, est-ce que c'est utile ? Ça dépense de l'eau, même s'il y a eu des systèmes vertueux mis en place. » Et puis, il y a aussi les captages privés. Chacun a son puits, en tout cas en campagne. Parfois, des puits artésiens, ils vont très profonds. Est-ce que là aussi, il faut avoir une approche enfin, légiférer, ce qu'il faut réglementer?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on sait à peu près tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, moi, je ne suis pas un fanatique du stockage de l'eau, hein, mais je me dis, quand on prend les chiffres dans leur globalité, il faut quand même qu'on ait une vision. Mais on ne pourra faire du stockage de l'eau en France et en Bretagne que s'il y a des préalables. Les préalables, c'est les économies. C'est le stockage de l'eau dans les sols, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de supprimer les zones humides, il faut arrêter de supprimer les talus, il faut ralentir le cycle de l'eau, il faut désimperméabiliser un certain nombre de choses. Et on était quand même les rois de l'imperméabilisation, que ça soit dans les villes notamment, hein, où on a beaucoup... je ne sais pas si vous avez suivi les expérimentations qui sont menées aujourd'hui sur les cours d'école, qu'on va revégétaliser. Tout ça, c'est des actions qu'il faut mettre en œuvre. Il faut retrouver... De la cohérence dans l'action. Et tous les citoyens, toutes les citoyennes doivent contribuer à cette prise de conscience. Que l'eau, elle est fragile et que ça commence dans son jardin, dans sa cour. Et on a eu trop tendance ces dernières années à évacuer l'eau le plus loin et le plus rapidement possible, alors qu'il faut la stocker dans les sols. Donc, économie, stockage dans les sols, tout ça sont des actions qu'il faudra mettre en œuvre. Et ça passera aussi par des prix différenciés de l'eau. Est-ce que le prix de l'eau potable pour l'alimentation humaine des populations doit être le même que le prix de l'eau pour alimenter une piscine, par exemple? Moi, je pense que non. Il faut que le prix soit différencié. Et y a des usages que je vais qualifier de plutôt superflus et d'autres plutôt essentiels. Donc, les usages essentiels doivent être protégés. Et les économies font faire partout. Alors je note quand même avec satisfaction que le monde de l'entreprise, et vous avez cité tout à l'heure les entreprises qui lavent les véhicules, toutes ces entreprises, elles ont bien compris que le prix de l'eau allait évoluer et font les économies essentielles et nécessaires. Donc ça, c'est à saluer. Il faut poursuivre ce travail de sensibilisation. Il faut être plus économe. Il faut réutiliser les eaux quand on peut. Enfin, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en œuvre et il faut qu'on comprenne tous, demain, que l'eau, elle vient pas du robinet. L'eau, elle vient d'une ressource commune, d'un bien commun qui est à côté de chez nous, d'une fontaine, d'une source, d'une rivière qu'il faut préserver.
Alors, préserver l'eau aussi, c'est la préserver en bonne qualité et au-delà du quantitatif. Aujourd'hui, il y a une grande inquiétude sur la pollution. On le voit, pollution des rivières, des cours d'eau. Et depuis quelques années, il y a une inquiétude grandissante autour des fameux PFAS et des polluants éternels. Et est-ce que là aussi, il va falloir qu'il y ait une grande réflexion rapide parce que là aussi, ça va coûter très cher pour dépolluer l'eau qui est soumise à ces polluants en particulier.
Alors, vous savez, pour faire le lien avec la question précédente sur l'aspect quantitatif. La qualité et la quantité évoluent ensemble. Et quand on prend l'état des masses d'eau en France, et peut-être en Bretagne, parce qu'en Bretagne, je trouve que c'est très significatif. Moins vous avez d'eau, plus c'est difficile d'atteindre les objectifs de qualité. Et quand je prends l'état des masses d'eau en France ou en Bretagne, on a à peu près aujourd'hui, au moment où je vous parle, 30% de masses d'eau conformes. Donc ça veut dire que 70% des masses d'eau en Bretagne ne sont pas conformes. Et lorsqu'on prend la carte des conformités en Bretagne, on s'aperçoit que dans le Finistère, on a entre 65 et 70% de conformité. Et quand on est en Ille-et-Vilaine, le taux de conformité est de 2%. Pourquoi ? Parce qu'il pleut deux fois plus dans le Finistère. Donc quand vous avez deux fois plus de pluviométrie, vous avez deux fois plus de capacité de dilution. Donc, moins vous avez d'eau, plus c'est difficile en termes de qualité. Donc ça, c'est un constat qui est assez sévère. Ça veut dire que le dérèglement climatique influe aussi la qualité de l'eau, nos rivières, nos fleuves, etc. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, plus on cherche d'éléments, plus on trouve, malheureusement. Et si je prends la question des PFAS ou des métabolites des pesticides, c'est pas qu'il y en ait plus aujourd'hui qu'avant. c'est qu'aujourd'hui, on les cherche et on les trouve dans l'eau. Donc évidemment, métabolites des pesticides et polluants éternels, ça fait très très peur. Parce que quand vous avez des contaminations de vos rivières, de vos fleuves, de vos aquifères, utilisés pour l'alimentation humaine des populations, et que vous êtes amené à utiliser cette eau pour les populations, les gens sont inquiets. Donc il faut absolument qu'on puisse être en capacité de résorber, de résoudre ces questions.
Il y a une question de santé publique aussi.
Ah, mais il y a une question de santé publique. Et puis, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui font très, très facilement le lien entre qualité de l'eau au robinet et un certain nombre de problèmes de santé. Donc, il faut qu'on règle cette affaire. Il faut que garder la confiance de l'eau du robinet. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut protéger les captages utilisés pour l'alimentation humaine des populations. Et il faut, je le dis très clairement, interdire l'usage d'un certain nombre de molécules dans ces périmètres de protection de captage. C'est le principe de précaution qui doit nous guider. Si je dis ça, ce n'est pas pour le faire contre les agriculteurs, mais c'est le faire avec les agriculteurs. Et si on demande ça aux agriculteurs, eh bien faut les aider à assurer cette transition agroécologique, à sortir des pesticides, pour la partie métabolite des pesticides, pour la partie PFAS, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Mais en tout cas, il faut que la préservation des ressources en eau devienne un enjeu politique, un enjeu de territoire, un enjeu de société. Et on ne fait pas ça contre une population, on fait ça avec les agriculteurs.
Alors sur les PFAS, justement, ces fameux polluants éternels, leur nom dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment s'en débarrasser, comment les traiter. Ça va avoir un coût important. Et là aussi, on ne sait pas trop où on va en termes de santé publique et d'environnement.
Bah, écoutez, je pense que c'est une pollution qui est très grave. Hein, parce que des PFAS, on les utilise... on est entouré de PFAS quotidiennement. Si je prends uniquement la question de nos vêtements, vous voyez, l'imperméabilisation de nos vêtements, bah, vous allez trouver des PFAS. Alors, on parle évidemment d'un certain nombre d'industries qui utilisent plus que d'autres ce genre de polluants éternels.
Nos ustensiles de cuisine.
Nos poêles, etc. Voilà. Bon, il y a des sites industriels qui sont très très touchés parce qu'en plus, plus vous concentrez évidemment l'usage de ces PFAS, plus vous avez de chances d'en trouver dans les eaux. Ça nous rappelle une chose, c'est que la nature ne nous rend que ce qu'on lui a donné. Parce que les polluants éternels n'étaient pas là. Ils ne sont pas présents dans la pluviométrie ni dans le sous-sol. Donc si on en trouve dans les rivières, c'est qu'on en a utilisé et mal utilisé dans nos territoires. Donc, il faut savoir que quand on utilise ces produits-là, on utilise des produits dangereux. Donc, il faut absolument que l'on soit à la hauteur des enjeux, encore une fois. Vous savez, moi j'ai fait le calcul en Bretagne. Pour protéger l'alimentation en eau potable des populations, il faudrait préserver entre 5 et 10% de la surface agricole de la Bretagne. Ou de la surface agricole totale de la Bretagne. Ben, je crois que ça en vaut le coup. Je crois que ça en vaut le coup. Et je crois que dans ces espaces-là, dans ces zones d'alimentation de captage, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas qu'on utilise de PFAS, il ne faut pas qu'on utilise de produits phytosanitaires, il faut qu'on impulse une autre dynamique. Évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'on a fait depuis des années avec avec un modèle agricole qui était plus productiviste. Mais je crois qu'il faut, si on veut sauver cette agriculture plus traditionnelle, on va dire, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux de la protection des captages.
Alors, un dernier mot sur les captages. Il nous reste 6-7 minutes. Un dernier mot sur les captages. Aujourd'hui, on va beaucoup pointer du doigt aussi les captages des usines d'embouteillage d'eau. Alors, on ne va pas citer de marque, mais voilà, qui privatisent un petit peu, si vous me permettez le terme, il n'y a pas d'acception politique, mais qui privatisent un petit peu l'eau, finalement, l'eau potable. Est-ce que là où il faut veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas une forme de privatisation de l'eau, que ceux qui ont les moyens puissent avoir accès à l'eau, et en tout cas à l'eau potable, et les autres ne puissent pas y avoir accès?
Mais vous avez raison de poser cette question-là. L'accès à l'eau en quantité et en qualité au robinet est un enjeu social. Il faut permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'une eau au robinet de qualité. C'est essentiel. Et c'est la meilleure réponse qu'on apporte à la question que vous me posez. Donc moi, je ne vais pas opposer les eaux minérales, les eaux de source à l'eau publique. Mais il faut que l'eau publique soit à la hauteur des enjeux. Et il faut qu'on fasse aussi bien que les autres. Parce que ce que nous démontre cette affaire, des eaux minérales. C'est que finalement, plus personne n'est à l'abri des pollutions. C'est ça que ça nous rappelle. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de ces enjeux. Et moi, je crois sincèrement que c'est avec courage, avec lucidité, qu'il faut aborder ces questions-là. Et encore une fois, c'est pas contre la profession agricole, c'est pas contre un modèle, c'est pour préserver une ressource essentielle à l'eau potable, à la biodiversité, à l'économie de nos territoires, à l'agriculture, bref, à tout le monde. C'est le bien commun de la nation.
On va parler un petit peu de sous avant de se quitter. Thierry Burlot, je le disais en commençant, vous êtes président du Cercle de l'eau. Et puis, évidemment, il y a une interrogation sur les moyens qui sont mis en œuvre. 6 agences de l'eau lancent leur 12e programme, leur programme sur la période 2025-2030, avec une inquiétude, il manque 13 milliards d'euros. Comment faire ?
Bah écoutez, d'abord... Je voudrais vous dire qu'en tant que représentant du bassin Loire-Bretagne, on a le bassin hydrographique le plus grand de métropole, puisqu'on pèse à peu près 30% du territoire national. Si je le compare à Seine-Normandie, par exemple, Seine-Normandie, c'est 20% du territoire national. Loire-Bretagne, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est à peu près 400 millions d'interventions par an, pour 30% du territoire national. Seine-Normandie, c'est 20%, je vous l'ai dit, c'est 900 millions de budget. Donc, le premier constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les territoires ruraux moins denses, en termes d'urbanisation, plus agricoles, comme Loire-Bretagne, sont les territoires les plus pauvres en matière de ressources financières sur l'eau. C'est la première chose qu'il faut dire. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que le modèle de financement de l'eau aujourd'hui, il est basé, c'est plus je consomme, plus je paye. Donc plus je suis industriel, plus je suis urbanisé, plus ça rapporte de redevances et plus je peux redistribuer. Donc là, moi je milite pour qu'il y ait des vraies péréquations nationales pour aider les territoires ruraux à faire face aux enjeux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les territoires ruraux qui font les fleuves, qui font les fleuves, qui sont les bassins hydrographiques des fleuves. Donc si on veut réussir un modèle de financement nouveau, il faut des solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Parce que ce sont bien les efforts de l'amont qui profiteront à l'aval. Donc si on veut des solidarités, il faut aussi des solidarités financières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que face au dérèglement climatique, d'abord, on pensait avoir tout réglé. Mais on l'a vu à travers l'entretien de ce matin, que non seulement on a des questions à régler sur la qualité, mais qu'en matière de quantité, on est loin du compte aussi. Parce qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui, en 2025, qu'on pourrait couper l'eau au robinet. Vous imaginez. Regardez un peu ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui.
Oui, hein, où l'eau ne coule pas tous les jours.
Voilà. Donc, d'ailleurs, ça me fait rappeler aussi qu'on doit être solidaire avec nos amis des ultramarins. Parce que les pauvres, eux, ils savent ce que c'est de ne pas avoir l'eau au robinet. Donc, solidarité en métropole avec les ultramarins, solidarité entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne, et puis aussi principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des molécules sur le marché. On met des molécules sur le marché. On a parlé des pesticides ou on parlerait des PFAS. Ben, c'est le principe de la responsabilité élargie des producteurs. C'est bien à ceux qui mettent ces molécules sur le marché et qu'on retrouve dans les eaux de payer la dépollution des eaux. Et c'est pas aux citoyens. Donc il faut qu'on trouve des modèles de financement, non pas par l'État, parce que l'État, on sait dans quelle situation il se trouve, mais aujourd'hui, il faut faire payer au juste prix la mise sur marché d'un certain nombre de molécules pour financer les traitements, pour financer la prévention, pour financer la dépollution.
On va devoir se quitter sur cela, Thierry Burlot. Vous reviendrez parce que le sujet de l'eau est inépuisable. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est essentiel. Et c'est pour ça que je voulais vous entendre ce vendredi matin. Thierry Burlot, président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, président également du Cercle français de l'eau. Merci infiniment d'être venu au micro de la matinale ce vendredi. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.